Les élèves de seconde 4, 8 et 9 du lycée Jean Monnet ont débattu sur la discrimination positive avec l'aide de leur professeur ES, Barbara Maurice.
Il y avait les contre et les pour. RVM les a accompagnés et nous vous proposons de les écouter.
Bonjour, je me présente, je suis Morgane Contant de la seconde 9 du lycée Jean Monnet de Crépy-en-Valois. Nous sommes actuellement dans la salle d'SES de Madame Maurice. Aujourd'hui, nous allons débattre sur la discrimination positive dans la société. La discrimination positive, c'est le fait de favoriser une catégorie de personnes qui subit habituellement de la discrimination en raison de son origine sociale, ethnique ou religieuse, de son sexe, de son âge, de ses handicaps, etc. Le premier à utiliser l'expression « affirmative action » est le président américain John Kennedy. Son idée était que malgré la promulgation des lois en faveur de l'inégalité, les Noirs restaient en retard par rapport au reste de la population américaine. Le but était de faire en sorte que les Noirs soient davantage représentés dans les emplois qualifiés, les universités, les médias, etc. Donc aux États-Unis, ils ont mis en place des quotas dans les universités, les médias, les séries. En France, il n'y a pas de quotas selon la couleur de la peau, mais il existe des discriminations positives dans d'autres domaines comme le handicap, le sexe, la pauvreté. Donc en tout début, nous allons parler des femmes. Que pensez-vous de la loi sur la parité établie en 2000 ? Camille ?
Alors tout d'abord, la loi sur la parité, c'est 50% des femmes et 50% des hommes sur la liste électorale pour être élus.
Donc les hommes et les femmes sont-ils véritablement égaux depuis cette loi ? Apolline ?
Alors non, c'est toujours pas le cas parce que dans le monde du travail, par exemple, on sait qu'il y a toujours 25% de différence sur les salaires par rapport des hommes et des femmes.
Comment peut-on faire pour changer ça ?
Il y a le dispositif des employeurs, parmi lesquels les administrations de l'État, ainsi que les établissements publics à caractère scientifique, technologique ou culturel, ont une obligation d'emploi pour les femmes égale à 6% de l'effectif des salariés.
Quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Apolline, oui ?
J'ai quelqu'un qui est contre. Alors, selon les recherches menées par le recruteur Egon Zehner, la Norvège, État pionnier en matière de discrimination positive pour les femmes depuis l'instauration d'un quota minimum de 40% en 2013, n'a enregistré aucune augmentation du nombre de femmes pour les postes de direction à haute responsabilité. Cette loi aurait même dissuadé certaines femmes de se tourner vers des postes inférieurs. Ces femmes se retrouvent à la fois confrontées à la peur de prendre de mauvaises décisions et à l'envie de prouver leurs compétences.
Donc le deuxième sujet, c'est nous allons parler maintenant des handicapés. Pour vous, la loi de 1987 sur les quotas des handicapés dans les entreprises, les places de parking gratuites, est-elle réellement indispensable ? Hugo ?
Je pense que non, parce que je trouve que par exemple pour un handicapé, si on lui donne un quota ou quoi que ce soit et qu'on embauche un handicapé juste parce que c'est des quotas, il peut se sentir vexé parce que c'est pas par rapport à ses compétences, mais par rapport à le fait qu'ils soient handicapés, qu'en fait.
Et que pensez-vous des installations pour les handicapés dans les entreprises ?
Je suis pas d'accord, parce que ça peut amener à des coûts astronomiques pour, par exemple, des grosses sociétés telles que des grands bâtiments ou quoi que ce soit. Et donc, je pense que c'est une perte d'argent et de temps. Voilà.
Moi, je suis pour, parce que comme ça, il n'y a pas de discrimination. Ils se sentent comme tout le monde. Égaux aux gens normaux qui n'ont pas d'handicap, donc je trouve ça bien.
Jessica ?
C'est bien qu'ils proposent des aménagements pour les handicapés parce que comme ça leur permet d'être plus intégrés à la société.
Ces lois sont-elles vraiment respectées par tout le monde ?
Non, il n'y a pas tout le monde qui les respecte, mais après, ça dépend des entreprises. Hein.
Et la société actuelle permet-elle l'insertion des handicapés ? Antoine ?
Du coup, oui, parce que si les entreprises, elles embauchent des handicapés, du coup, ça permet de les insérer dans la vie du travail, dans la vie de tous les jours.
Chloé ?
Moi, je pense que c'est pas top parce que y a des quotas et que ça se trouve, ils sont pas forcément, ils ont pas les qualités requises pour les travails demandés.
Manon ?
C'est aussi une injustice pour les non-handicapés parce que des handicapés peuvent être pris à la place des non-handicapés, juste parce qu'ils le sont.
Nous allons passer au sujet numéro 3. Les élèves ayant une origine sociale défavorisée avant le bac, l'accès aux ZEPREP est-il réglementé et sont-elles vraiment efficaces pour les élèves ? Antoine ?
Oui, parce que du coup, ça leur permet d'arriver, même s'ils n'ont pas une origine sociale ou... Enfin, s'ils sont pas... même s'ils ne sont pas comme tous les autres, ça leur permet d'arriver aussi loin que des personnes, par exemple... des personnes qui sont pas issues des minorités ethniques.
Et comment peut-on les aider dans le suivi de leurs études ? Camille ?
Le suivi des élèves est plus approfondi, individuel, car il y a beaucoup moins d'élèves dans une classe. Ils peuvent faire plus de sorties pédagogiques. Ils peuvent avoir des bourses, des fonds sociaux pour la cantine ou pour les lycéens. Les élèves ont 1h30 de cours pour pouvoir utiliser en groupe pour être plus efficaces. Les professeurs peuvent tester d'autres méthodes pédagogiques.
Apolline ?
Moi, je suis contre parce que plus d'un tiers des enseignants demandent leur mutation à la fin de l'année. Le sigle REP est défavorisant pour les élèves.
Après, les élèves qui n'ont pas suivi cette réforme-là, par exemple, ils vont se sentir un peu jaloux parce que eux, ils ont travaillé comme des fous et du coup, les autres élèves qui ont cette réforme-là, bah, ils vont se sentir un peu mal par rapport à ça. Et limite, ils peuvent avoir de la discrimination ensuite.
Jessica ?
Moi, je trouve que c'est bien de mettre en place les ZEP parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui, par leur origine sociale, le métier de leurs parents, etc., ils n'ont pas forcément le moyen de faire des bonnes études, de pouvoir sortir de leur milieu social. Donc, de mettre des moyens un peu plus importants pour les élèves comme ça, c'est mieux parce que, en quelque sorte, ça permet de les remettre à égalité avec ceux qui ont déjà les moyens par eux-mêmes.
Hugo, vas-y.
Donc moi, je suis contre parce que je pense que si on facilite trop l'accès aux études, par exemple supérieures ou quoi que ce soit, et qu'on facilite la chose, les gens vont avoir trop de facilité. Donc, ça va leur permettre d'accéder trop facilement à des choses où en fait, justement, il faut travailler un maximum et avoir un niveau d'études assez élevé. Que si on leur facilite un peu trop la chose, ça risque d'être trop simple et risque de se perdre en fait.
Jessica ?
S'ils font des niveaux trop durs, etc., ceux qui sont plus faibles, etc., quand ils vont vouloir changer de leur milieu, etc., ils pourront pas parce que du coup ce sera trop élevé. Il faut leur laisser une chance. Après, quand il y a les études, enfin voilà, oui, il faut qu'ils se mettent au bon niveau, mais si on n'en laisse même pas la possibilité de rentrer, ça sert à rien.
Moi je pense que, en prenant l'exemple de Sciences Po par exemple, qui facilite le concours d'entrée à des élèves de milieux défavorisés, je pense que c'est un peu trop simple en fait. C'est vu qu'ils viennent d'un milieu d'une origine sociale difficile, c'est pas pour autant que c'est difficile pour eux d'avoir, enfin de bosser autant que les autres. Je veux dire, avoir des cours particuliers à côté, oui, c'est payant, mais travailler à l'école tel qu'il le faut, en fait, c'est propre à tout le monde. Donc je trouve ça un peu bête de faciliter le concours d'entrée ou même de le sauter pour les personnes qui sont juste d'origine sociale défavorisée. En plus, quand ils ont leur place après dans une université ou dans une école spécialisée, bah leur place, eux-mêmes, ils ont du mal à l'accepter puisque c'est comme si on leur donnait les choses alors que les autres, ils ont tous fait un concours d'entrée en fait.
Camille ?
Y a aussi un concours d'entrée pour les personnes venant de ZEP ou des trucs comme ça. Et sachant que ceux qui viennent de banlieue ou les trucs comme ça, ils ont moins de vocabulaire ou ils ont plus de mal que ceux qui viennent de cadre. Parce qu'ils sont plus soutenus dans leurs études ou les trucs comme ça.
Et du coup, pour vous, les enfants d'ouvriers sont-ils vraiment plus intelligents que les enfants de cadre ? Les enfants de cadre sont-ils vraiment plus intelligents que les enfants d'ouvriers ? Hugo ?
Non. Car je pense que l'intelligence est propre à tous. On est tous nés avec la même intelligence de base, je pense. Sauf cas extrême. Je pense qu'on a tous les mêmes chances de réussir, même si on n'a pas le même carnet d'adresse, ni la même... les mêmes endroits de vie ou quoi que ce soit. Je pense qu'au niveau des études, je pense qu'on a à peu près tous le même taux de réussite et qu'on a la même intelligence partout.
Jessica ?
C'est pas l'intelligence qu'il faut regarder parce que l'intelligence, ça se travaille, etc. Mais c'est parce que quand il faut rentrer dans les grandes écoles, ils ont pas la même culture générale, ils ont moins de vocabulaire et du coup, ça va les handicaper pour rentrer dans les grandes écoles.
Manon, allez-y.
Si on veut vraiment faire quelque chose et qu'on travaille vraiment pour, on peut avoir la même intelligence qu'on soit ouvrier, enfant d'ouvrier ou enfant de cadre. Et si on a vraiment la volonté de faire quelque chose, on peut faire en sorte d'y arriver.
Antoine ?
Je pense pas qu'on peut, c'est pas parce qu'on veut que l'on peut forcément. Une personne qui est par exemple d'une origine sociale défavorisée, elle va pas avoir forcément le courage pour pouvoir le faire. Par exemple, on va dire ses parents. Ou d'une personne défavorisée, elle va pas forcément accepter que son fils ou sa fille ait un meilleur classement dans l'échelle sociale que eux.
Donc nous allons passer au quatrième sujet. Est-ce une bonne chose que Sciences Po élargisse ses horizons en acceptant des jeunes défavorisés ? Hugo ?
Je ne pense pas. Je pense que Sciences Po c'est une école, c'est des études supérieures. Et je pense qu'à partir du moment où on veut intégrer cette école, faut être prêt à faut être l'élite un peu niveau des études. Faut être vraiment fort et anticiper la plupart des choses. Je pense qu'élargir trop facilement les horizons et laisser trop de possibilités à des personnes qui par exemple, ne réussiraient pas, je trouve que c'est bête parce que ça limite des places pour des personnes qui réussissent.
Camille, allez-y.
Hugo, en fait, ce que tu dis, c'est que ceux qui viennent de milieux défavorisés, ils n'ont pas la même compétence que ceux qui viennent de milieux de cadre. Parce qu'ils ont élargi en Sciences Po pour les enfants défavorisés, enfin, plus défavorisés. Donc, pour moi, c'est faux ce que tu dis.
Sauf que Sciences Po, ils ont élargi dans le sens... ils ont juste accepté de prendre des personnes de quartiers défavorisés sans leur faire passer le réel concours qui est le plus difficile. Et donc, ça leur facilite trop l'entrée, en fait. Donc, c'est un peu bête. Mais moins difficile que celui que les autres passent.
C'est normal.
Par exemple, l'année prochaine, tu pars en S, ES ou L. Et l'exemple, ce serait que, imaginons, tu viens d'un milieu aisé. On te dit, tu passes le bac S. Et quelqu'un d'un milieu un peu moins aisé que toi, il le passe, mais avec plus de facilité. Je trouverais pas ça normal, parce qu'il a suivi le même cursus que toi.
Peut-être qu'il a moins de culture générale, donc c'est normal.
Après, qu'il fasse une voie de secours, en fait. C'est pas pour les... Enfin, c'est pour faciliter à ceux qui, par exemple, enfin, ils viennent pas souvent des mêmes écoles. Justement, ceux qui vont dans le concours normal, c'est ceux qui viennent des écoles plus prestigieuses, qui réussissaient déjà là-bas, alors que justement, c'est ceux qui, justement, n'avaient pas forcément les moyens d'aller dans les grandes écoles, et qui étaient dans des petites écoles, des petits trucs de quartier, etc. Et justement, ils ont du coup appris moins de choses. Et c'est plus simple de leur laisser une voie de secours. Vu que du coup, ils savent moins de choses. Il faut leur demander un peu moins de choses. Mais après, quand ils vont apprendre à l'école, ils vont apprendre autant que les autres.
Oui, parce que sinon, c'est pas des parts égales. Si ce serait que les enfants de cadre qui auraient le droit d'aller dans des grandes écoles et pas les enfants de familles ouvrières.
J'ai pas dit qu'il fallait limiter leur entrée à des familles ouvrières. En fait, c'était plus dans le sens ne pas leur faciliter trop la tâche. Qu'ils passent le même concours d'entrée, je trouve ça normal. Je trouverais ça normal.
Mais ça sert à rien qu'ils passent le même concours. Ils y arriveront pas. Ils ont pas eu la même éducation ni rien. Donc ça sert à rien.
Donc pour vous, en gros, l'intelligence des enfants de cadre est supérieure au-delà de ceux qui viennent de la classe ouvrière. Pour vous, la classe ouvrière, c'est les personnes... débiles qui n'apprennent rien à l'école et qui ont besoin qu'on leur tienne la main jusqu'à Sciences Po et ensuite de leur dire « tu peux y aller, c'est bon, tu vas réussir ».
Justement, souvent, les grandes écoles comme ça, c'est pas des tests de savoir, etc. C'est des tests de culture générale et c'est des trucs qu'ils ont pas forcément dans les petites écoles ou de campagne.
Que l'élève soit motivé et soit curieux pour ça. L'intelligence ne compte pas si la personne vient d'une famille aisée ou autre.
Ceux qui viennent de milieux ouvriers, ils sont plus motivés que ceux qui viennent de familles aisées, d'après une vidéo.
Et du coup, pour vous, les jeunes défavorisés après le bac ayant été en Sciences Po, ont-ils plus de mal à trouver du travail ? Hugo ?
Non. Car je pense qu'à partir du moment où on obtient notre diplôme et qu'on a, en fait, peu importe la classe dans laquelle on vit, à partir du moment où on a nos diplômes, on est à peu près tous pareils, enfin, sur ce point-là. Normalement, on a les mêmes qualités quand on passe les mêmes diplômes. Que ce soit classe ouvrière ou classe aisée.
Si. Bah moi, je dis que non parce que les enfants de cadre et les enfants défavorisés ont le droit au même travail. On a tous le droit à un travail normal car on est tous égaux dans le travail.
Mais jusqu'à là, c'est qu'il l'a mérité aussi.
Vous voulez rajouter quelque chose ?
Puis quand on embauche quelqu'un, on ne regarde pas forcément d'où il vient, mais plutôt le diplôme qu'il a, donc qu'il soit ouvrier ou qu'il soit enfant de cadre, ça ne change pas grand-chose, vu que quand on embauche quelqu'un, bon, ce n'est pas ce qu'on regarde en premier.
Il a appris à évoluer, à prendre un langage correct, on va dire, pour la société.
Cinquième sujet. Pensez-vous que la France devrait instaurer des quotas sur les minorités ethniques contre la couleur de la peau ? Hugo ?
Non, parce que je trouve pas ça juste, étant donné que la devise de la France, ça reste liberté, égalité, fraternité. Je vois pas pourquoi quelqu'un devrait avoir un quota et pas d'autre. Enfin, pourquoi on devrait avoir un quota ci, un quota ça ? Je pense qu'on devrait juste avoir la liberté d'avoir plus d'une personne que d'autres, que ce soit plus de femmes, plus d'hommes. Plus de chinois, de noirs, de blancs, peu importe.
Jessica ?
Après, ça dépend des gens, parce qu'il y a toujours des gens qui, malgré tout, ils restent un peu racistes, ont des préjugés sur les gens qui sont
de couleur, etc. Donc c'est vrai que, enfin, il y a des fois, il y a des gens, quand on va à l'académie, juste par rapport à la couleur, il y a des clichés qui vont sortir, etc., alors que c'est pas forcément vrai. Et du coup, c'est vrai que parfois, les employeurs, c'est mieux qu'il y ait quelques aides, etc., pour les aider à trouver les emplois pour les personnes de couleur. Enfin, souvent, les employeurs, ils vont se dire, ah bah, ça y est, c'est un noir, c'est un finant, etc., enfin, juste en se basant sur des clichés. Moi, je sais que mon père, il est directeur, et quand il y a des clichés comme ça, il va quand même regarder un petit peu si, par rapport à l'aspect physique, c'est quelqu'un qui va avoir envie de travailler, etc.
Les minorités ethniques ont-elles vraiment besoin de quotas ?
Je pense que non, parce que chaque personne qui est embauchée doit mériter sa place par lui-même. C'est mieux de se dire moralement qu'on a juste les capacités de faire le travail plutôt que de se dire qu'on est juste là pour remplir un quota.
Apolline ?
Et quelque part aussi, je trouve que le fait de faire des quotas, c'est comme même de la discrimination parce que on le fait pour certaines personnes et du coup, c'est comme si on faisait une discrimination en fait.
Je pense que c'est pas forcément correct parce que peut-être en général, ce serait correct dans le sens de dire que dans une société, il y a 50% de noirs et par exemple 50% de blancs. Mais d'un côté, imaginons qu'il y ait deux personnes qui se présentent, l'un qui est blanc, l'un qui est noir, et il y a 49% sur 100 personnes hein, et 49 noirs et 50 blancs, et bah par exemple imaginons si le blanc a plus de compétences, et bah on va engager le noir juste parce qu'il y a un quota. Bah je trouve pas ça juste. Je pense qu'on devrait pas faire de quota parce que on devrait juste se qualifier par rapport bah justement au talent et aux qualifications de la personne et non à sa couleur de peau et même à ses origines, peu importe.
Camille,
c'est bien aussi que les personnes de couleur qu'ils aillent leur place comme nous dans le monde de l'entreprise. Donc, d'un autre côté, c'est pas mal non plus.
Qu'est-ce qui changerait si des quotas sur les minorités ethniques étaient mis en place ? Hugo ?
Bien, je pense que ce serait quelque chose d'injuste, qu'on regretterait la décision plus tard. On aurait des sociétés qui seraient juste... où le contrôle des quotas serait juste énorme et je trouverais pas ça juste. Et je pense que la majorité des personnes qui subiront cette discrimination dans un autre sens, parce que même si c'est... C'est un acte de bonté envers une minorité, par exemple, mais c'est aussi un acte de discrimination envers une majorité, par exemple. Et ben, je pense qu'on reviendrait dessus peu de temps après.
Jessica ?
Mais après, quand on regarde, par exemple, dans les grandes entreprises, c'est vrai que tu vas plus voir des personnes blanches que des gens de couleur, etc. Donc après, c'est vrai que ça permettrait... Enfin, on est censé être une France égalité, etc., liberté, enfin voilà. Sauf qu'on n'est pas tous égaux, la preuve, on voit qu'une seule sorte de couleur quand on va dans les grandes entreprises.
Mais à ce moment-là, s'il faut faire des quotas d'entreprises ou quoi que ce soit, c'est ça que je veux dire, c'est que je ne pense pas que la population française est divisée en parts de quotas exactes. C'est-à-dire, il n'y a pas un tant de pourcent de blanc, un tant de pourcent de noir, et on est tous égaux à ce moment-là. Je ne pense pas qu'il y ait une réprimande comme ça de la population. Je ne pense pas qu'il y ait une grande majorité, mais je pense qu'il y a au moins 30-35% de personnes qui est blanche, et après, le reste, ça vient de différentes origines ou même des mélanges. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, comment on pourrait dire ça ? Je pense que, étant donné qu'il n'y a pas une population égale et égalitaire sur la couleur de peau ou quoi que ce soit, et bah, on ne peut pas faire de quotas dans les entreprises parce que ce n'est pas juste.
Mais le fait qu'il y ait un quota pour les gens de couleur, c'est toujours mieux pour qu'il y ait moins de discrimination envers les directeurs et leurs employés.
Après aussi, si on instaure ça, bah, on met des gens dans des cases par rapport à leur origine et par rapport à leur couleur. Donc c'est un peu vraiment... Enfin, c'est injuste, quoi. Enfin, de classer les gens par rapport à ce qu'ils sont, alors que c'est pas à cause d'eux, quoi. Enfin, c'est leur gène, c'est... Enfin, après, ils peuvent avoir les compétences en travaillant. C'est pas du tout... parce qu'ils le voulaient.
Après, c'est une aide parce que, par exemple, regarde, aux États-Unis, ça a bien marché. Enfin, ça n'a pas créé de problème ni rien. Ça les a juste aidés.
Ça n'a pas créé de problème. D'accord. Aux États-Unis, c'est bizarre, mais il y a une grande majorité de personnes qui disent que le fait qu'on ait fait de la discrimination positive envers les Noirs américains, et bah, même beaucoup de Noirs américains disent que c'est injuste eux-mêmes parce que ça a créé encore plus de racisme. Parce que, étant donné que certains Noirs américains étaient engagés dans des sociétés à taux de pourcent de 50%, et ben c'était injuste. Et beaucoup de Blancs qui ont été réprimandés parce qu'il fallait plus de Noirs dans les sociétés, ils se sont dit qu'ils ont été au chômage à cause d'une loi sur la discrimination positive. Et donc, ça a créé du chômage et de la haine. Et au final, il y a eu quoi ? Il y a eu comme des affrontements, des dérapements au niveau de la police, quoi que ce soit, sur des Noirs américains qui juste tout ça à cause d'une loi qui a engendré encore de la haine. Donc je pense que c'est pas quelque chose de bien de caser les gens dans des cases et de dire qu'il faut un taux de pourcent dans une société et un taux... C'est débile. On contrôle pas ce genre de choses. Je pense qu'on devrait juste contrôler les talents et les qualifications de certains.
Si t'es pas d'accord, je trouve qu'il y a quand même vachement de noirs ou de personnes colorées. Enfin, ils se plaignent, mais au fond, si jamais ils n'avaient pas été aidés, il y en a qui seraient encore au chômage. Donc, techniquement, ça les a aidés. C'est vrai que ça les embête d'avoir été mis dans des cases, etc. Mais ça les a quand même un petit peu aidés.
Oui, mais aussi parfois, ils ont préféré trouver leur travail par eux-mêmes plutôt que d'y être entraînés par une loi.
Marie, vous voulez rajouter quelque chose ?
Bah, en France, on ne peut pas faire des statistiques sur ça parce qu'on ne peut pas calculer par rapport à la couleur de peau.
Donc, nous allons faire le dernier sujet. Pour vous, une personne pauvre peut-elle évoluer dans la société ? Hugo ?
Non.
Parce que je pense que les pauvres resteront toujours pauvres et que les riches resteront toujours riches et que c'est quelque chose de juste.
Antoine ?
Je pense que oui, parce que quand on voit par exemple la démarche qui a été faite pour que des personnes d'origine sociale défavorisée puissent accéder à Sciences Po, forcément ça veut dire qu'elles accéderont à une origine sociale forcément beaucoup plus évoluée que celle à laquelle ils sont.
Jessica ?
Les pauvres, ils peuvent évoluer dans la société, ils peuvent se donner plus les moyens de réussir au travail, enfin, ils peuvent tenter des choses pour réussir à avoir une vie meilleure.
On peut naître pauvre. Et au fur des années, avec les enfants, enfin les futures générations, monter dans la société.
Marie ?
Pas obligatoirement évoluer, parce que maintenant, notre génération a beaucoup de stéréotypes sur les personnes par rapport à l'origine sociale ou autre. Donc les personnes vont se dire, bah, vu qu'on pense ça de moi, bah, je vais m'arrêter ici. Enfin, la personne va abandonner vite fait et du coup, son origine sociale ne va pas augmenter.
Jessica ?
Bah, c'est justement pour ça, vu qu'ils sont pas forcément les moyens d'eux-mêmes pas réussir, c'est pour ça qu'il faudrait bah, justement les aider avec le RSA qui justement va les aider en leur passant un salaire un peu plus important, ce qui va les aider à avoir des meilleures conditions de vie.
C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on peut pas avancer tout en la société. Donc, je pense que c'est bien le RSA pour les gens pauvres.
Hugo ?
Moi, je pense que qu'on devrait pas trop favoriser les pauvres et qu'on devrait leur laisser à leur stade, on va dire, et qu'on devrait laisser la vie mener son cours et voir si. Si les personnes ont la compétence de devenir plus riches et plus aisées. Mais je pense que la grande majorité des pauvres resteraient pauvres et la minorité des riches resteront riches.
Jessica ?
Oui, mais justement, ça ne se fait pas qu'ils doivent rester pauvres. Enfin, souvent, ce n'est pas leur choix s'ils en sont arrivés là. Donc, c'est souvent à cause du chômage ou des choses comme ça. Donc, justement, il faut les aider. Il ne faut pas juste dire qu'ils sont pauvres et qu'ils vont devoir rester pauvres.
On met des réformes juste parce que la personne vient de banlieue ou a une autre origine sociale. Donc, c'est pas compréhensible.
Camille ?
Je trouve ça normal d'aider ceux qu'on a le plus besoin. On est tous égaux, donc je vois pas pourquoi ceux qui auraient le plus d'argent auraient plus de chances que ceux qui sont pauvres. Donc je trouve ça bien les aides.
Marie ?
Tu viens de dire, ouais, on est tous égaux et tout. Alors pourquoi nous, on devrait avoir une sorte de réforme pour... Parce qu'on est en difficulté par rapport à ce qu'ils sont.
Hugo ?
Comme l'a dit Marie, liberté, égalité, fraternité. Égalité, je pense que c'est le bon mot qu'on devrait choisir parce que je trouve qu'on devrait avoir les mêmes droits, les mêmes facilités. C'est-à-dire que si on accorde la facilité aux banlieues, et on devrait faire pareil pour les riches en fait. Parce que je trouve pas ça égalitaire en fait. Et pourtant c'est la devise de notre pays.
Jessica ?
Justement, ils sont pas égaux justement. C'est pour ça qu'il faut les aider pour les mettre justement sur le même piédestal. Parce que là, ils sont pas égaux, justement, s'il y a pauvres et riches, c'est qu'ils sont pas égaux, sinon ce serait un seul nom pour les deux.
Sauf que là, les pauvres, ils naissent avec les moins de chances que ceux qui sont riches. Donc pour les mettre au même niveau, il leur faut des aides.
Bah, ils peuvent se débrouiller tout seuls aussi, enfin, s'ils veulent faire ça, bah, il faut le vouloir.
Ils ont peut-être l'envie, mais ils ont peut-être pas les moyens.
Est-il normal que les pauvres trouvent moins facilement de travail, Hugo ?
Non, parce que je pense que... Que justement, les soi-disant pauvres, même si on devrait plus appeler ça la classe ouvrière, ont même plus d'opportunités de travail, puisque par exemple, les usines qui ouvrent ou quoi que ce soit, ou peu importe, tout ce qui n'est pas responsabilité énorme ou quoi que ce soit, enfin, il y a plus en plus de travail, puisqu'il y a plus en plus d'industrialisation, et donc ça donne plus de travail, et même il y a des cadres ou quoi que ce soit, peu importe, mais ça leur donne beaucoup plus de travail, et justement, je pense que c'est la classe aisée qui a le moins de choix possible.
Antoine ?
Comment est-ce que tu peux expliquer l'augmentation du chômage?
Je pense que c'est dû à l'immigration. Voilà.
Des quotas dans les entreprises, bah, les personnes vont se fixer un objectif, vont dire ouais, bah, on va prendre tant de personnes parce qu'ils sont handicapés, tant de personnes parce qu'ils sont de notre origine.
Camille, ceux qui sont dans les milieux aisés, ils trouvent plus d'emplois parce qu'ils ont plus d'années d'études, donc ils sont plus qualifiés pour les métiers bah, justement où ça paye le mieux. Donc c'est un peu normal, enfin, dans la société, que ceux qui ont fait moins d'études, donc ceux de la classe ouvrière, ils trouvent moins de travail.
Antoine ? Aussi, une personne aisée peut largement trouver plus de travail qu'un pauvre. Parce que déjà, les personnes aisées, elles ont un carnet d'adresses beaucoup plus rempli. Donc, elles ont forcément beaucoup plus de contacts. Et donc, elles peuvent accéder au piston ou parler à des connaissances et tout. Bah oui. Elles peuvent facilement accéder à des personnes pour faciliter l'entrée de leurs enfants. Alors qu'une personne pauvre, bah forcément, elle n'a pas ces ressources-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut les aider.
Nous arrivons au terme de ce débat sur la discrimination positive. Merci pour votre écoute et au revoir.
Vous êtes sur RVM,
Radio Vallon-Mulsien,
93.7, la radio qui vous écoute.